Merci beaucoup pour ce temps de recueillement, d'adoration, de chant. Merci à Adeline d'avoir bien introduit le thème de la générosité de Dieu. La Pentecôte était une fête juive dans l'Ancien Testament, avant d'être une fête chrétienne et d'avoir un sens nouveau avec la venue de Jésus-Christ et la naissance de l'Église. Ceci est vrai de plusieurs grandes fêtes, Pâques en particulier, qui était la grande fête de la sortie d'Égypte, de la fin de l'esclavage, avant d'être la fête de la résurrection du Christ. Dieu a clairement voulu faire correspondre de grands événements de la vie du peuple d'Israël et de l'Église. Les fêtes de l'Ancien Testament préparaient le terrain et donnaient un cadre très particulier aux fêtes chrétiennes qui ont suivi. Un rappel des fêtes juives, je ne vais pas vous demander de les réciter, je ne les avais pas toutes en tête non plus, mais Lévitique 25 nous aide. 23, pardon. Lévitique 23, si ça veut passer, non, ça ne veut pas passer. Première fête qui est rappelée parmi les sept fêtes, voilà, vous les avez les sept. Le sabbat, temps de repos, de communion, rappeler régulièrement que le peuple a souvent négligé, dans une longue période, il l'a négligé pendant 490 ans. Et Dieu a dit, vous me devez 70 ans. Et ils sont partis 70 ans en déportation. Une grande, grande fête hebdomadaire. La Pâque, grande fête de la délivrance d'Égypte, suivie de la fête des pains sans levain, elles sont rattachées, parce que la fête des pains sans levain rappelait qu'ils étaient partis à la hâte, après avoir attendu des mois. Tout à coup, ils ont été chassés avec les bijoux et l'or que les Égyptiens leur ont donnés. Le jour des expiations, si vous acceptez un peu d'hébreu, c'est le Yom Kippour. Grande fête solennelle pour recevoir le pardon, demander le pardon à Dieu et recevoir le pardon, se savoir accueilli par lui. Puis la fête des huttes, il paraît que les enfants aimaient particulièrement. Tu m'étonnes. Une semaine sous tente, en souvenir des 40 années dans le désert. C'est celle qui est imagée, la fête des huttes. Et puis au milieu de ces fêtes liées à la sortie d'Égypte, au salut, à la relation avec Dieu, deux fêtes liées à la vie agricole. La fête des prémices, au début de la moisson, fête de reconnaissance à Dieu qui fait pousser tout cela et qui nourrit son peuple. Et puis la fête des moissons, à la fin de la moisson, pour remercier Dieu pour l'abondance de la récolte. Et c'est cette septième et dernière fête, enfin ce n'est pas la septième dans l'ordre, mais la septième dans le tableau que je vous ai donné, c'est cette fête qui donne le contexte d'Acte 2 et qui correspond à cette fête appelée de trois noms. Diapo suivante. La fête des moissons, la fin des blés. Alors dans mon village, vous m'avez déjà entendu dire ça, ça ne marche pas. Parce qu'à Pentecôte, ce n'est pas la fin de la moisson. À Roche-les-Blamont. Mais en Israël, ça marche. On est en Israël. Elle est aussi appelée la fête des semaines, c'est la même. Parce qu'il fallait compter une semaine de semaines pleine, ça fait 50 jours, 49 plus 1, vous vous souvenez de maths et des extrémités. Il fallait compter 50 jours entre la fête des prémices et la fête de la moisson pour revenir dire merci à Dieu. Donc, dans la culture juive qui a accueilli la langue grecque, ils ont parlé de la fête de Pentecostès. Vous avez tous compris le grec, hein ? Si on transcrit en français, ça donne Pentecôte. Voilà le contexte de cette fête agricole que Dieu a choisie pour lui donner un sens nouveau, très différent, mais avec des ponts importants, pour choisir le jour du don de son esprit. Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit à ses disciples, avant de monter au ciel le jour de l'Ascension, il leur avait rappelé la promesse faite dans la chambre haute, Jean 14 à 16. Il est avantageux que je parte pour que je puisse vous envoyer le Consolateur, l'Esprit. Et avant de remonter au ciel, il leur a dit, attendez, ne bougez pas, n'entreprenez pas de grands travaux. Attendez à Jérusalem, ils ont dû attendre 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte, pour recevoir le Saint-Esprit avec lequel vous pourrez être mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Je vous propose de relire la promesse chez Joël ce matin, puis je lirai quelques versets dans Actes 1 et 2 qui nous rappellent que Dieu a accompli sa promesse, et on méditera les 5 versets de Joël pour réfléchir à cette magnifique fête d'aujourd'hui, fête de la Pentecôte. Joël, alors vous avez 2 chiffres, ne soyez pas troublés, si vous voulez suivre dans votre Bible, dans l'original ou dans une autre langue, ça dépend des numérotations. Dans certaines Bibles, c'est la fin du chapitre 2, versets 28 à 32, et puis Joël se termine avec le chapitre 3. Et dans d'autres Bibles, c'est le début du chapitre 3, versets 1 à 5, et puis Joël se termine avec le chapitre 4. Voilà, toute petite remarque de structure. Joël 3, dans la Bible que j'ai sous les yeux. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion, à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Quelques siècles plus tard, Actes 1, versets 4 à 9, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un peu plus loin, nous lisons que devant ce miracle, certains étaient admiratifs, tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres que veut dire ceci, mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et la citation continue dans Acte 2, mais j'arrête la lecture ici. Je reviens à Joël. Une grande promesse du temps de Joël. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu du contenu du livre de Joël? Ça commence de façon incroyablement affolante est catastrophique, avec une invasion de sauterelles qui ravagent tout. Puis il y a quatre bestioles, pardon pour le nom, mais c'est difficile à traduire dans les Bibles, ce n'est pas toujours le même mot, mais quatre insectes dans Joël 1,4, qui disent que si jamais la sauterelle en a laissé un peu, le deuxième va faire la finition. Si jamais la deuxième laisse encore quelque chose, la troisième va arriver, puis la quatrième va vraiment tout finir. Et dans le symbolisme de la littérature hébraïque, le 4 évoque clairement la mesure qui déborde. Ce n'est pas énorme, 4, pour nous, mais dans le symbolisme hébraïque, c'est la mesure qui déborde. Vous trouvez souvent dans les prophètes cette expression, à cause de 3 crimes, même de 4, Dieu va devoir intervenir. C'est un peu notre 36 à nous, 36 chandelles. On est allé un peu plus loin que 4. Mais c'est exactement le même sens. C'est énorme. Et donc, on a 4 insectes qui vont tout ronger. Et tout à coup, on ne sait pas trop d'où ça vient. Relisez Joël. Dieu dit, revenez à moi. Il vient de dire qu'il va tout détruire. Et il annonce le jour de l'Éternel qui va être encore pire que ce qu'ils ont vécu avec les sauterelles. Puis il dit, revenez à moi. Et je veux vous guérir. Et puis je vais remplir vos greniers. Et la moisson va être abondante. La moisson va être abondante. Et puis il y a ce paragraphe que j'ai lu de Joël 3, ou la fin du chapitre 2, où Dieu annonce qu'il va abondamment répandre son esprit. Donc on a donc un paragraphe de promesse dans un livre qui commençait de façon extrêmement solennelle en dénonçant la gravité du péché, de la situation, et un jugement terrible qui allait tout détruire. Cette promesse est d'autant plus belle qu'on a un peu le contexte en tête. De quoi nous parle cette promesse ? D'abondance et de générosité de la grâce de Dieu. Dieu annonce par son prophète Joël une promesse marquée par l'abondance. C'est tellement plus que ce qui était vécu par les croyants de l'Ancien Testament, quand il annonce qu'il va répandre abondamment son esprit sur tous. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. » Est-ce qu'il y a des amateurs de structure qui ont remarqué qu'il y a un premier mot qui est répété à la fin ? Et qui dit que Dieu va être généreux. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et puis plusieurs exemples. Et il conclut en disant, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Premièrement, ce verbe dit clairement que Dieu va être généreux. Il va déverser, on peut traduire par ce mot aussi, son Saint-Esprit sur son peuple. Et c'est la nouveauté, parce que le Saint-Esprit était bel et bien présent du temps de Joël, du temps de David, du temps d'Abraham. Comment Joël aurait pu écrire cela s'il n'avait pas été inspiré par le Saint-Esprit? Comment David aurait pu écrire environ la moitié du psautier s'il n'avait pas été fortement guidé par le Saint-Esprit? Mais une phrase que l'on trouve dans l'Ancien Testament souvent nous dit que Dieu a saisi par son esprit. Donc l'esprit était là, bien sûr. Mais le Saint-Esprit était offert à l'un, à l'autre, pour quelque temps. Et beaucoup de choses nous échappent. Mais les formules nous font comprendre que le Saint-Esprit n'était pas répandu comme il l'est depuis la Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui. Donc le Verbe en lui-même dit déjà les choses. Les exemples qui suivent vont confirmer cela. Plusieurs couples de groupes de personnes, les fils et les filles, hommes et femmes, les anciens et les jeunes, les vieux et les petits, et même les servantes et les serviteurs. Donc ces remarques ajoutent au fait que Dieu ne va oublier personne et que son esprit va être vraiment offert à tous. Et puis ce qu'ils font dit encore la générosité de Dieu, ce qu'ils vont pouvoir accomplir parce que l'Esprit va les guider. Ils prophétiseront, ils auront des songes, ils vont comprendre des visions. Tout cela nous parle de la variété et de la générosité avec laquelle Dieu va répandre son esprit. Et pour les Juifs, c'était quelle fête ? La moisson. Dieu avait préparé tout cela en instituant une fête agricole, une fête d'adoration, d'émerveillement devant la moisson abondante que Dieu accordait. Dieu avait mis tout ça en place pour préparer un cadre, un jour dans lequel il allait donner son esprit. Je trouve que Dieu est très fort. Et il avait voulu que cela corresponde au temps qui s'écoulerait entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ et puis ce don de la Pentecôte. Donc il fallait que Pâques soit 7 semaines de semaine avant la Pentecôte. Donc il fallait que le peuple juif soit chassé par le Pharaon, qui finalement a capitulé au bon moment, au début de la moisson. Et le Pharaon n'avait pas une minuscule idée de tout ce que Dieu était en train de gérer souverainement. Le Pharaon avait la tête très dure. La parole de Dieu nous parle de quelqu'un qui était extrêmement dur, mais Dieu a fait correspondre au millimètre, au jour près, la sortie d'Égypte. Dieu est généreux et cette fête d'aujourd'hui doit nous aider à nous le rappeler. Nous pouvons l'oublier parce que Dieu est invisible et que les choses invisibles sont quelquefois beaucoup moins présentes dans notre esprit qu'elles ne devraient l'être. Nous pouvons l'oublier parce que beaucoup de choses nous rappellent que nous sommes petits. Et dans Acte 1, Jésus a dit aux 11, ne vous attendez pour être équipés et je vais vous envoyer dans le monde entier. Il fallait les équiper pour les envoyer dans le monde entier. En pleine période de l'occupation romaine. Donc nous pouvons oublier la générosité, la bonté de celui qui répand son esprit sur tous ses enfants. Mais pensons-y tout particulièrement aujourd'hui et gardons ce cadre de la fête de la moisson. Pensons aux fruits de l'esprit et aux perspectives qu'il nous offre, qu'il nous donne. Oui, Dieu veut développer en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça déborde, non ? Comprenons que tout cela permet l'engagement de tous. Ah, on arrive dans les applications. Oui, Dieu est généreux. Dieu donne son esprit sur les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les serviteurs, les servantes, pour que tous puissent le glorifier. Nous avons des missions différentes. Nous sommes appelés pour des ministères différents. Nous avons des vocations différentes. Mais nous devons tous le servir là où nous sommes. Un Dieu généreux qui a équipé tout le peuple pour que tout le peuple puisse le servir. Troisième remarque, ce texte nous parle de prodiges, de signes que Dieu va accorder. Au point, comme on l'a relu quand j'ai lu quelques versets simplement du chapitre 2 du livre des Actes, ça ne veut pas passer derrière, ce n'est pas grave. Au point que certains, que tous étaient étonnés quand même devant les grands signes que Dieu a accordés et que plusieurs ont eu la mauvaise idée de mal interpréter cela et de se moquer. Ils doivent avoir bu un peu trop ou beaucoup trop pour parler dans toutes ces langues. Ce qui était une hypothèse vraiment farfelue, franchement. C'est rare que l'alcool ait des effets si positifs. Je ne suis pas un habitué, mais... C'est bizarre. Ceci dit, le même Saint-Esprit, évidemment, a inspiré Pierre de façon magnifique. Il répond à une moquerie en offrant la première prédication de l'histoire de l'Église qui est née à la Pentecôte. Et c'est magnifique. Pierre est inspiré et va rappeler que oui, c'était prévu, pas seulement que Dieu allait être généreux en donnant son esprit, mais c'était prévu qu'il y aurait des signes. C'est ce que Joël dit. Je ferai paraître des signes dans le ciel, sur la terre. Et les langues en font partie. Il va se passer des choses. du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres. Ah, ça c'était au moment où Jésus était sur la croix. La lune en sang, il y a une partie symbolique bien sûr là-dedans. Mais Dieu dit, il va se passer beaucoup de choses qui vont vous rappeler que Dieu est à l'œuvre et qu'il y a un bouleversement énorme dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du salut. Un grand pas est vécu, Jésus-Christ a parfaitement accompli son œuvre, le Saint-Esprit est répandu, l'Église peut naître. Donc Pierre comprend que la prophétie de Joël n'annonçait pas simplement la générosité de Dieu qui allait répandre son esprit, mais que la prophétie de Joël annonçait justement ce que certains ont pris comme occasion pour se moquer. Et donc il leur répond. Et puis il va aller bien plus loin. Le Saint-Esprit va aider Pierre à rappeler que ce Jésus-Christ est à l'origine de ces bénédictions qui débordent sur nous. Ce Jésus-Christ que vous avez tellement mal jugé, tellement mal compris, que vous l'avez rejeté, crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et ils vont être bouleversés, beaucoup d'entre eux, en comprenant à quel point ils avaient tout faux, tout mal compris. Et quand Pierre termine son discours, sa prédication, ils disent « Que ferons-nous ?» Et Pierre leur dit ce que tous les prophètes ont dit, ce que toute la parole de Dieu dit, « Repentez-vous et vous recevrez le pardon. » Et le Saint-Esprit que Dieu est en train de nous accorder abondamment. Dieu nous accorde des signes. Dans quelques minutes, nous prendrons le pain, la coupe. Dieu accompagne la vie de foi qui est intérieure, qui est profonde, par des signes, des symboles. Et il y en a deux que nous pratiquons régulièrement dans cette période de l'Église. Le baptême au début de la foi, de la marche chrétienne, et la scène régulièrement tous ensemble. Le Seigneur accorde des signes. Et à côté de cela, il accorde des rappels de sa présence. Et une de mes prières régulières est la suivante. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, aide-moi à remarquer ce que tu fais. Que ce que tu nous accordes ne soit pas ignoré, ne soit pas moqué par d'autres, mais que ce soit l'occasion de fortifier ma foi et de reconnaître que Dieu accompagne la vérité et les vérités intérieures de manifestations tangibles qui nous rappellent qu'il est vraiment là. Dernier point. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Tout cela vient de Dieu, et il est question du salut. Le salut est lié à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, mais le jour de la Pentecôte, annoncé par Joël, est un jour qui rappelle que le salut vient de Dieu. Et j'égrène 6 points de cette courte phrase qui termine ce paragraphe de la prophétie de Joël. Alors, quiconque. Est-ce qu'un verset bien connu vous vient en tête ? Oui. Jean 3,16. Quiconque se tourne vers l'Éternel reçoit le salut. Joël avait annoncé cela. Parce que le Saint-Esprit est donné, parce que Jésus-Christ a parfaitement accompli son œuvre, le salut peut vraiment être offert à quiconque. Deuxième mot, invoquera. Si simple, mais déterminant. Le salut est lié à l'attitude de repentance de celui qui tourne les yeux vers l'unique sauveur. Imagé dans l'Ancien Testament avec l'épisode du serpent d'airain, il fallait au moins, mais ça suffisait, regarder du bon côté. Quiconque invoquera, significatif de l'élan de foi. Le nom de l'Éternel du Seigneur. Il y a un seul sauveur. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y a pas des religions plus ou moins capables de plus ou moins préparer le salut. Il n'y a qu'un seul nom. Acte 4, 12, qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il y aura des rescapés. Ce jour de la Pentecôte nous rappelle que ce Dieu généreux est celui qui a répandu son esprit sur tous ceux qui se tournent vers lui et qui sont sauvés, parce qu'il y a des millions de rescapés sur terre. Mais la phrase ne dit pas qu'il y aura des millions de rescapés sur toute la terre. Il est dit qu'il y aura beaucoup de rescapés à Sion, sur la montagne de Sion, à Jérusalem. Alors, on n'est pas tous à Sion, sur la montagne de Jérusalem, mais on est tous des rescapés de Sion, c'est-à-dire de Golgotha. Tout ça dans cette phrase. Il y aura des rescapés, et beaucoup, 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 plus nombreux que le sable au bord des mers, à Sion, parce que Jésus-Christ est mort à Golgotha. Annonce claire de l'œuvre déterminante de Jésus-Christ, mort à notre place pour nous offrir la délivrance de la condamnation et pour nous offrir le salut. Et un dernier mot concernant les sept semaines de semaine. Pardon. Non, la semaine de semaine. Pardon, je suis trompé. Ça faisait beaucoup. Ça faisait 49 semaines, j'en ai rajouté. Un mot concernant la semaine de semaine qui est donnée comme période que Dieu a voulu instituer entre la réjouissance au début de la moisson, qui correspond à Pâques, et la réjouissance à la fin de la moisson, qui correspond à la Pentecôte. Qu'est-ce que semaine pourrait bien évoquer dans les symboles très évidents, pas du tout tirés par les cheveux, pas du tout plaqués parce qu'on a envie de dire quelque chose? Qu'est-ce que le mot semaine évoque de façon très forte, partout, constamment, dans la Bible? La création. Qu'est-ce qu'une semaine de semaine pourrait bien évoquer? Une création particulière, une nouvelle création. Et là encore, Dieu est fort. Et Dieu nous donne de multiples symboles pour nous dire que, avec ce salut, il veut créer du tout neuf. La création est belle, magnifique. On l'a quelque peu abîmée, mais la création est belle, magnifique. Et la nouvelle création est hyper magnifique. Et Dieu illustre la nouvelle création par une semaine de semaine, de recréation, de restauration. Bonne fête de Pentecôte à tous. Dernière diapo conclusive. Je vous invite à penser toute la journée, puis si possible jusqu'à l'année prochaine, à la générosité de Dieu. Dieu est incroyablement bon. Il déverse ses bontés sur nous chaque matin. Il déverse son esprit depuis le jour de la Pentecôte sur son peuple. Pensons à la générosité de ce Dieu tout-puissant qui donne abondamment. Et pensons au fruit de l'esprit que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est un texte inépuisable pour louer Dieu et pour prier les uns pour les autres. Et puis, bénissons ce Dieu qui se révèle, qui se manifeste. Ouvrons les yeux devant les signes qu'il nous donne. Ne soyons pas attachés aux signes pour en dépendre, comme si c'était eux qui fondaient notre foi. Bien sûr que non. Mais ouvrons les yeux devant tout ce que Dieu veut nous accorder pour nourrir notre foi. Et puis, adorons le Dieu unique qui sauve. Alors, quiconque invoquera le nom sera sauvé. Un seul Dieu, un seul Sauveur, Jésus-Christ, un seul sacrifice à Golgotha, sur la croix, à Sion, là où il y a des rescapés, pour que tous puissent le servir. Que Dieu nous aide à l'adorer, à le glorifier dans les jours qui viennent. Amen.